Vous avez été tourné dans la suite de la série que nous sommes en train d'examiner ensemble, c'est-à-dire dans le livre de Daniel au chapitre 5. Aujourd'hui, nous regarderons le chapitre 5. Alors, nous lirons les quatre premiers versets. Un jour, le roi Balthazar offrit un grand banquet à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Sous l'influence de l'alcool, il ordonna qu'on apporte les coupes d'or et d'argent que son père Nabucodonosor avait pris dans son au temple de Jérusalem. Il voulait s'en servir pour boire en compagnie de ses hauts fonctionnaires, de ses femmes et de ses épouses de second rang. On apporta donc les coupes d'or qui provenaient du sanctuaire de Dieu à Jérusalem, et le roi les utilisa pour boire en compagnie de tous ses invités. Après avoir tous bien bu, ils se mirent à chanter les louanges des dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Jusqu'ici, les lectures de la parole. Au cours des dernières semaines, frères et sœurs, nous avons examiné l'histoire étonnante du roi Nabucodonosor et sur la manière dont Dieu a agi dans sa vie. Dieu va prendre ce roi dont le cœur débordait d'orgueil, un homme centré sur lui-même, pour le briser et l'amener à placer toute sa foi en un Dieu tout-puissant qui contrôle tous les événements. Et comme je l'ai mentionné la dernière fois, je suis convaincu en lisant les versets 34 à 37 du chapitre 4 et la fin du verset 21 au chapitre 5 que le roi Nabucodonosor était sauvé. Le roi a honoré le Seigneur et Dieu a béni ce roi, nous dit le texte. Et il a dit, « Je fus rétabli dans ma royauté, et je reçus plus d'honneur encore qu'auparavant. C'est pourquoi maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte, je glorifie le roi du ciel. Tout ce qu'il entreprend est droit, toutes ses actions sont justes. Il a même le pouvoir d'humilier ceux qui se conduisent avec orgueil. » Et le chapitre 5 nous révèle un autre roi qui s'appelle Balthazar, un nouveau roi de Babylone. Un roi qui s'est rendu coupable d'avoir commis de terribles péchés contre Dieu et qui va en payer un terrible prix. Son histoire est un puissant avertissement pour ceux qui voudraient se détourner contre Dieu. Balthazar s'est rendu coupable d'avoir ignoré Dieu, d'avoir ignoré sa parole et d'avoir ignoré de faire sa volonté. Balthazar a été jugé pour ses nombreux péchés contre le Seigneur. Ce matin, nous nous trouvons devant l'un des chapitres les plus tristes de la Bible, alors que nous nous apprêtons à examiner la vie d'un homme du nom de Balthazar. Ce matin, nous nous trouvons devant l'un des chapitres qui va nous amener à... Je pense qu'il y a un fil conducteur, en fait, à travers tout ce qui s'est été dit à la présidence, dans la présidence. Et on va réaliser que cet homme, qui était un homme très riche, qui possédait un immense pouvoir, eh bien, était aussi pauvre dans son âme que s'il était un mendiant. C'était un homme qui gouvernait un vaste royaume, et pourtant, il était incapable de gouverner son propre cœur. C'était quelqu'un qui était craint par ses sujets, mais qui ne ressentait aucune crainte vis-à-vis du Seigneur. C'est le seul chapitre dans la Bible qui nous donne un aperçu de cet homme. Et on le lit au verset 1, nous le retrouvons en train de participer à un grand banquet en compagnie de ses hauts fonctionnaires, au nombre de 1000. Frères et sœurs, Balthazar correspond à beaucoup de gens de notre époque qui vivent aujourd'hui uniquement pour cette vie, qui cherchent à satisfaire les désirs de la nature humaine sans se poser aucune question sur l'éternité. Ils font la fête, ils s'amusent et ils vivent pour se payer du bon temps sans se rendre compte que le jour viendra où la fête prendra fin. Ils ne s'arrêtent jamais pour se poser cette question importante. Que se passe-t-il quand la fête est finie? Car il arrivera un jour où tout cela cessera et alors ce sera la fin. Qu'arrivera-t-il alors? Que se passera-t-il quand la fête sera finie? Et ce texte a quelque chose à nous apprendre à ce sujet. Si nous pouvions transformer ce chapitre en pièce de théâtre, nous le classerions comme étant une tragédie. En fait, nous pouvons observer trois tragédies dans ces versets ce matin. Permettez-moi de vous signaler ces trois tragédies. Alors que je vais m'arrêter tout au long du message sur la question que j'ai posée il y a un instant, que se passe-t-il quand la fête est finie? J'ai parlé avec un jeune homme il y a récemment. J'ai essayé de lui parler du Seigneur. Il m'a dit, écoute, la vie est tellement courte, il faut en profiter. La vie est tellement courte qu'il faut en profiter. Oui, mais elle est courte et tu ne sais pas quand elle va finir. Mais la question que je lui ai posée, t'es-tu posé la question, que va-t-il se passer quand la fête va être finie? Parce que nos jeunes aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, ils sont toujours en train de fêter. Ils fêtent les week-ends, ils fêtent des fois aussi le soir après les études, mais nos jeunes sont, surtout dans notre génération dans laquelle on est, et qui est vraiment portée sur l'alcool parce que l'alcool est devenu moins cher que les drogues, on est en train de développer finalement une génération d'alcooliques. Il y a ma fille et d'autres personnes qui sont médecins qui m'ont raconté le nombre de personnes, de jeunes, particulièrement les filles, qui rentrent dans des comas éthyliques à l'hôpital. Et il y en a qui ne s'en sortent pas finalement. Il n'y a pas un coma éthylique, il n'y a rien qui garantit qu'on va revenir. Et on est dans une génération qui est sans espérance, qui est sans espoir. Et on est dans une génération, à une époque où nos jeunes ont besoin d'entendre l'Évangile. Vous savez, j'ai fait beaucoup de camps d'évangélisation. C'était surtout avec des enfants, des gens du monde. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est très, très difficile de leur parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils savaient même pas qu'il y avait un Dieu qui existait. Alors, on a dû revenir à la base, s'adapter, commencer à leur parler qu'il y avait un Dieu qui existait, pour leur dire que ce Dieu-là, eh bien, s'était fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus, pour ces jeunes, ça voulait absolument rien dire. Ils avaient entendu. C'était quelqu'un qui était relié à certaines religions, différentes religions. Mais pour eux, ça n'avait aucune valeur de parler du nom de Jésus. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait revenir à la base. Il fallait revenir avec la personne de Dieu, vraiment parler de Dieu. D'abord, que Dieu existait, qui était Dieu, et ensuite de ça, qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Et c'est vrai que les gens dans notre génération d'aujourd'hui vivent au jour le jour et ne se posent jamais la question, qu'est-ce qui va arriver quand le party, quand la fête sera finie? Nous, on le sait, qu'est-ce qui va arriver. Et ce sera une grande fête, mais pas nécessairement ici, mais là-haut, parce qu'on est tous appelés à participer aux noces de l'agneau. On est tous appelés à se être rassemblés autour de cette grande table où tous les élus pourront participer aux noces de l'agneau et vraiment célébrer et régner avec le Seigneur pour l'éternité. Vous êtes amen à ça ce matin. La première tragédie, c'est celle d'une vie gaspillée. Première tragédie, j'aurais pu dire en trois actes, en fait, oui. Une vie, si j'avais fait une pièce de théâtre, la première tragédie, c'est celle d'une vie gaspillée. Les versets 1 à 4 qu'on a lus tantôt. Cette nuit d'ivresse, à cause de l'orgueil démesuré, de Balthazar. Une vie gaspillée à cause de l'orgueil démesuré de Balthazar. Cette nuit d'ivresse et de débauche organisée par le roi nous rappelle les conséquences de l'abus de certaines substances et de tout ce qui les accompagne. Le vin, dit l'auteur des Proverbes, rend quelqu'un arrogant, et les liqueurs fortes l'incitent au tapage. Qui en boit trop est dépourvu de bon sens. Il continue dans Proverbes 23, les versets 29 à 35, « Qui vit dans la misère et les regrets? Qui se dispute sans cesse et se plaint sans arrêt? Qui reçoit des coups sans raison? Qui a la vue troublée? C'est l'homme qui s'attarde à boire du vin et essaye sans cesse de nouveaux mélanges d'alcool. » Et Paul nous dit, il nous interdit pas de boire du vin, mais il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela ne peut que vous amener à vivre dans le désordre, mais soyez remplis de l'Esprit-Saint. » Les drogues, l'alcool et les autres addictions auxquelles la nature humaine devient trop souvent esclave, sont un accessoire temporaire pour ceux qui sont désespérés et qui vivent sans but dans la vie. En tant qu'enfants de Dieu, si nous savons que nous vivons dans un corps humain, nous savons aussi que nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Les armes que nous utilisons dans notre combat ne sont pas celles que le monde utilise. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements, nous dit l'apôtre Paul, nous renversons tout ce que l'on dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Dans une autre version, dans Louis II, nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir à Jésus-Christ. Les versets 2 à 4, quand on regarde les versets 2 à 4 que nous avons lus, eh bien, on voit que Balthazar blasphème le Seigneur. Et le contexte de cette soirée, la suivante, Balthazar se met à boire du vin et sous l'influence de l'alcool, il a essayé de montrer la supériorité de ses dieux en ridiculisant le Dieu des Hébreux. Comment? En donnant l'ordre qu'on apporte les coupes d'or et d'argent que son père avait prises à l'époque dans le temple de Jérusalem Et là, il voulait s'en servir pour boire en compagnie de ses hauts fonctionnaires, de ses femmes, de ses épouses de second rang. Et on va apporter les coupes d'or qui provenaient du sanctuaire de Dieu, et le roi va les utiliser pour boire en compagnie de ses invités. Et on sûrement peut, on n'est pas dans l'ambiance, on n'entend pas finalement les trompettes et tout le tralala, mais finalement, le but, c'était pour se moquer carrément de Dieu, pour montrer que ses dieux à lui étaient supérieurs aux dieux des Hébreux. Et après avoir tous bu, ils vont se mettre à chanter des louanges des dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre, pardon, nous dit le texte. Et en agissant ainsi, ce roi a traité le seul vrai Dieu comme s'il n'était rien. Et frères et sœurs, il n'est pas le seul. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui agissent encore comme lui aujourd'hui. Ils prennent les choses de Dieu, ils s'en servent comme s'ils n'avaient aucune valeur. Que ce soit la Bible, que ce soit l'Église, que ce soit le nom du Seigneur. Et l'aveuglement de Balthazar, c'est dans les versets 14 à 22. Je spécule, mais je suis sûr que Nabuchodonosor avait partagé avec son fils Balthazar tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Au lieu d'obéir au Seigneur comme l'avait fait son père, Balthazar méprise l'héritage divin que lui avait laissé son père et il avait choisi un autre chemin dans la vie. Non seulement il avait probablement entendu le témoignage de son père concernant la manière dont Dieu avait utilisé Daniel pour l'humilier, mais il va aussi l'entendre de la bouche de la reine mère le jour même au verset 10, la première partie du verset 10 pour ceux qui ont leur Bible, lorsqu'elle va entrer dans la salle du banquet. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire dans les versets 10 et suivants? On peut lire ensemble. Elle dit à Balthazar, « Longue vie à toi, majesté, il ne faut pas te laisser terrifier par tes pensées et en perdre toute couleur. » Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais Balthazar, à un moment donné, durant le party, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une main qui vient sur le mur qui vient écrire quelque chose. On va le voir tantôt écrire quatre choses, quatre mots. Et ça va le foudroyer, ça va le terrifier. Le texte hébreu, en fait, est beaucoup plus fort. Il dit, il est devenu tout pâle. C'est pas facile d'avoir une main qui se promène toute seule, hein, sur un mur en train d'écrire. Là, on se demande si on n'a pas trop bu de vin, n'est-ce pas? Mais le texte s'adressait vraiment à lui, et il va le voir un peu plus loin que ce texte s'adressait à lui. Alors, la reine mère a dit, dans ton royaume, il y a un homme qui est animé de l'esprit, pas des dieux, pas les mêmes dieux que toi, mais des dieux saints. À l'époque de ton père, on a découvert en lui une clairvoyance, une intelligence exceptionnelle, du discernement et la capacité d'expliquer les rêves, de résoudre les énigmes et de dévoiler les mystères. Alors Balthazar, à la suite du verset 12, Balthazar demandant donc qu'on fasse venir Daniel pour qu'il lui révèle la signification de cette inscription qu'une main humaine avait écrite sur la paroi du palais royal et qui l'avait tellement terrifié. Il dit à Daniel, j'ai entendu dire que tu étais animé de l'esprit des dieux. Or, j'ai appris que toi, tu es capable d'expliquer les énigmes et dévoiler les mystères. Si tu parviens, probablement qu'il lui a montré, si tu parviens à déchiffrer cette inscription, eh bien, à un moment donné, la signification, tu seras revêtu d'habits d'apparat. On te passera même un collier d'or autour de ton cou et tu seras l'un des principaux ministres du roi. Moi, j'aime bien la réponse de Daniel ici au verset 17. Hein. Dans les Proverbes, l'auteur des Proverbes nous dit de jamais accepter des cadeaux, parce que quand on accepte des cadeaux, on est lié. Et Daniel, lui, pour moi, il avait lu les Proverbes. Regardez ce qu'il lui dit. Daniel répondit au roi, « Majesté, tu peux bien garder pour toi tes cadeaux et tes présents et les donner à quelqu'un d'autre. Pourtant, je déchiffrerai l'inscription et je t'en donnerai la signification. » Et dans les versets 18 à 21, pour ceux qui ont leur Bible, Daniel va rappeler à Balthazar les bénédictions et les problèmes qu'avait vécu Nabuchodonosor. Il lui dit que son cœur était rempli d'orgueil, qu'il avait été humilié par le Seigneur et qu'il avait été béni par la suite par Dieu. Rappelez-vous, Dieu l'avait vraiment sévèrement jugé en l'amenant à manger de l'herbe pendant 7 ans comme les bêtes dans les champs. Il lui dit que son cœur était rempli d'orgueil et qu'il avait été... Balthazar n'avait pas prêté attention aux leçons du passé. Il savait ce que Dieu avait fait pour son père, mais il demeurait délibérément aveugle à ces choses parce qu'il ne voulait pas humilier son cœur devant Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de gens demeurent aveugles face à la vérité qui les entoure. Comme Balthazar, ils ont la preuve devant eux de vie changée, transformée et bénie par Dieu, mais ils demeurent sourds et aveugles au témoignage de vie qu'ils voient et entendent, parce que non seulement ils ne veulent pas changer leur façon de vivre, mais parce qu'ils veulent continuer à vivre comme bon leur semble. Ils ne croient pas parce que le Dieu mauvais de ce monde a aveuglé leur intelligence. En effet, aveuglés, n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui, et ils cherchent eux-mêmes à établir leur propre façon d'être justes, nous dit la parole. Versets 23 à 28, la sentence de Dieu tombe sur Balthazar. Balthazar avait pris les coupes qui étaient consacrées au temple et il les avait profanées. Il a traité les choses saintes comme c'était ordinaire. Et le péché de Balthazar est double. Selon Daniel, non seulement Balthazar avait défié le Seigneur des cieux en faisant apporter les coupes sacrées du temple pour boire dans celles-ci, mais il avait chanté des louanges à ses dieux, refusant ainsi de rendre gloire à Dieu qui tient dans sa main sa vie présente et sa destinée. C'est ce que le texte biblique dit ici, au verset 23, n'est-ce pas? Il a refusé de rendre gloire à Dieu. Il a plutôt voulu rendre gloire à ses dieux, alors qu'il savait à quoi correspondaient ces coupes qu'il avait dans ses mains. Et le texte est magnifique parce qu'il a refusé de rendre gloire à Dieu qui tient dans sa main sa vie présente et sa destinée. Les frères et sœurs, c'est un bon rappel pour nous. Pour ceux qui ne se sont pas encore convertis, rappelez-vous qu'on n'est pas maître de nos battements du cœur. Notre cœur, il bat. Puis quand Dieu dit, c'est le temps maintenant que tu viennes devant moi, que tu comparaisses devant moi, on ne peut pas demander à notre cœur de continuer à battre, c'est le temps. Dieu tient votre destinée, ma destinée entre ses mains. Dieu tient aussi, notre vie entre ses mains aussi. Et gloire à Dieu parce que nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu parce que c'est notre Père céleste et il veille sur nous. Et notre vie, frères et sœurs, elle est entre bonnes mains ce matin parce qu'on lui appartient. Vous dites amen à ça. Et Balthazar va subir la colère de Dieu parce qu'il a défié le Dieu du ciel. Il va en payer un prix tellement élevé. Il va perdre son trône, son royaume, sa vie et finalement son âme. En d'autres mots, il a levé son poing vers Dieu en le défiant et en ignorant la parole de Dieu. Quand quelqu'un agit ainsi, il ne lui reste plus qu'à attendre le jugement de Dieu. Cette parole n'est pas seulement pour Balthazar, mais pour tous ceux qui agissent comme lui ce matin. Car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Il ne reste plus qu'à avoir peur en attendant ce qui arrivera, c'est-à-dire le jugement et le feu ardent qui dévorera les ennemis de Dieu. C'est pour moi qu'il dit, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Frères et sœurs, la vérité, c'est que Dieu veut sauver les pécheurs parce qu'il aime le pécheur. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Est-ce que vous dites gloire à Dieu pour ça? On a un grand Dieu, frères et sœurs. Le désir de Dieu est si grand qu'il a offert son Fils en sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon de ses péchés en faveur de tous ceux qui croient en lui. Il nous a donné sa parole pour nous montrer le chemin qui mène à lui et il utilise son esprit pour me convaincre de venir à lui, de marcher avec lui. Quand les gens entendent le message de la croix, quand ils sont invités à venir à Dieu par le Saint-Esprit, ils ont un choix à faire. S'ils écoutent la voix de Dieu, ils seront sauvés. S'ils refusent son appel, ils subiront tôt ou tard les conséquences de leur refus et ils n'auront personne d'autre à blâmer, sinon qu'eux-mêmes. N'est-il pas écrit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, que celui qui désobéit au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu? Jean chapitre 3, verset 36. C'est la parole de Jésus. Balthazar est un exemple de quelqu'un qui a gâché sa vie. Et si son style de vie, son état d'esprit correspond à la vôtre ce matin, Dieu vous invite à vous repentir et à venir à Jésus-Christ pour obtenir son pardon. Peu importe ce que vous avez commis comme faute, vous avez la certitude qu'il ne rejette jamais celui qui vient à lui. Jamais. S'il n'a pas rejeté le malfaiteur qui, à la dernière minute, est venu à lui, j'imagine la liste des péchés et la vie qu'il avait vécue. Je suis persuadé que cette parole est encore valable pour aujourd'hui. Christ ne rejette personne qui vient à lui. Il ne rejette personne, peu importe la quantité de péchés, peu importe la gravité des péchés, Christ ne rejette jamais personne qui vient à lui. On a un Dieu extraordinaire. Sa grâce n'est pas limitée. Son pardon n'est pas limité. Tant qu'on est dans le règne de la grâce, eh bien, profitons-en, frères et sœurs. Annonçons l'Évangile, parce que la Bible, elle est claire. Un jour ou l'autre, eh bien, ça ne sera pas devant le trône de la grâce qu'on va se présenter pour confesser nos péchés, mais ce sera devant le trône de jugement pour recevoir la sentence de Dieu, parce qu'on n'aura pas, on aura refusé, finalement, d'accepter Jésus-Christ, qui est le seul moyen pour nous de voir nos péchés être pardonnés. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est point jugé, nous dit Jésus, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'est pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, continue Jésus dans Jean 3, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ça, on oublie de continuer à lire après Jean 3, 16, mais rappelons-nous qu'à partir de Jean chapitre 3, Jésus est toujours en train de parler à Nicodème. Hein? Il est toujours à parler à Nicodème. D'ailleurs, il lui amène l'exemple du serpent qui a été élevé dans le désert, mais il est toujours en train de parler à Nicodème. Et il nous donne la raison pour laquelle les gens ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus. C'est Jésus lui-même qui le dit. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes préfèrent continuer à vivre dans leur péché. Ils préfèrent vivre dans leur péché que de se détourner de leur péché et recevoir cette paix et cette joie du salut en Jésus-Christ. Et Jésus le dit, parce que leur cœur est mauvais. Et leur cœur est si mauvais qu'ils veulent poursuivre à vivre dans leur péché. Moi, je n'invente rien. Hein? C'est dans Jean chapitre 3. Et vous regarderez la suite des versets 18-19. C'est ce que Jésus dit. Car quiconque fait le mal, et il continue, fait le mal, est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Non seulement ils ne veulent pas venir au Seigneur Jésus parce que leurs œuvres sont mauvaises, mais aussi parce qu'ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées, leurs œuvres mauvaises. Frères et sœurs, nous venons de voir la première tragédie, celle d'une vie gaspillée. Nous allons voir maintenant le deuxième acte ou la deuxième tragédie. Voir Dieu déverser sa colère sur un pécheur. Versets 24 à 28. Regardez les versets 24 à 28. Alors Dieu a envoyé une main tracer cette inscription. Voici ce qui est écrit. Mené, mené, tekel et parsin. Et en voici le sens. Mené signifie compter. Dieu a fait le compte au sujet de ton règne, dit Daniel, et y met fin. Tekel signifie peser. Tu as été pesé sur une balance et l'on a jugé que tu ne fais pas le poids. Pérez signifie diviser. Ton royaume a été divisé pour être donné aux Mèdes et aux Perses. Pouvez-vous imaginer, frères et sœurs, ce qu'a pu penser Daniel en voyant toute cette débauche quand il a mis les pieds dans la salle des banquets? Il va d'abord commencer par donner une leçon d'histoire à Balthazar. Et ensuite, il va lui donner une leçon de théologie. Daniel savait déjà ce qui s'était passé à Babylone avant même d'entrer dans la salle des banquets. Et comment le savait-il? Daniel avait sûrement lu le livre de Jérémie, chapitres 50 et 51, qui prophétisait tout ce qui était en train d'arriver. Malheureusement, les mots de Daniel arrivent trop tard pour sauver l'âme de Balthazar ou pour pénétrer son cœur endurci, parce que Balthazar est allé trop loin. Balthazar est sur le point de faire face à la terrible colère de Dieu. Le grand jury du ciel s'est réuni et avait rendu une terrible sentence en 4 points contre lui. Il avait été compté, pesé et divisé. Le temps du jugement était arrivé pour lui. Frères et sœurs, si Dieu est un Dieu d'amour, rappelons-nous qu'il est aussi un Dieu saint, qui manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal commis par les hommes, qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la vérité d'agir, nous dit l'apôtre Paul. En effet, notre Dieu est un feu qui détruit, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. En effet, notre Dieu est un feu qui détruit, chers amis, ne tombons jamais dans le piège de penser que Dieu ne jugera jamais le péché. Ne pensons jamais que Dieu ne jugera jamais le péché. La colère de Dieu va se concentrer sur le péché, la rébellion de Balthazar. Il va avoir franchi la ligne rouge et il va devoir faire face à la colère de Dieu. Voilà pourquoi les pécheurs doivent se repentir de leurs péchés, car comme Balthazar, s'ils ne le font pas, ils feront un jour ou l'autre face au jugement de Dieu. Nous savons que Dieu n'est pas un grand papa gâteau qui cligne de l'œil face aux péchés des hommes. Il est un Dieu trois fois saint qui doit être craint. Je vous le dis à vous, mes amis. Luc chapitre 12, versets 4 à 5, dit Jésus. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Je vous le dis à vous qui êtes mes frères ce matin. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu, qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. La main a écrit que Balthazar avait été compté, pesé et divisé. Balthazar n'avait offert aucune autre option, ni aucune autre alternative à Dieu. Il était temps pour lui de payer tout ce qu'il avait fait. Gloire à Dieu, parce que dans sa grâce et dans sa bonté aujourd'hui, frères et sœurs, on peut dire encore que c'est le jour du salut pour quiconque vient à Dieu avec un cœur repentant. Mais il viendra un jour, comme je l'ai dit tantôt, où le temps, la miséricorde et la grâce de Dieu seront épuisés. Ce jour-là, il ne restera plus que la mort, l'enfer et le jugement. Voilà pourquoi nous invitons les gens non seulement à se repentir pendant qu'il est encore temps, mais à recevoir Jésus parce qu'un jour, il sera vraiment trop tard. La première tragédie, c'est celle d'une vie gaspillée. La deuxième tragédie, c'est celle de voir Dieu déverser sa colère. Et la troisième tragédie, c'est assister à la mort tragique d'un misérable. Versets 29 et 30. Il est écrit que cette même nuit, alors que Balthazar faisait la fête, ses ennemis campaient autour de Babylone. Il croyait que Babylone était en sécurité, ce pauvre roi. Il croyait qu'il avait suffisamment de nourriture en réserve pour tenir un siège pendant 20 ans. Il croyait qu'il pourrait boire de l'eau à volonté en passant au fleuve qui traversait la ville. Il se sentait pleinement en sécurité avec les grands murs de Babylone qui mesuraient, comme on l'a dit la semaine passée, 117 mètres de haut et 27 mètres de large, et sur lesquels des soldats montaient continuellement à la garde. Balthazar se croyait invincible. Il pensait que son royaume existerait encore pendant de nombreuses années. Mais cette même nuit, nous dit le texte biblique. Mais voilà, cette même nuit, le roi Balthazar fut tué. Et le général Darius, le Mède, va demander à ses troupes de détourner les eaux de l'Euphrate, ce qui va libérer finalement ce qui se trouve en dessous des grands murs, de ces grands murs-là, qui va faire un tunnel, et ils vont passer, ils vont envahir la ville pour faire en sorte, d'établir, mais à partir de là, le royaume des Mèdes et des Perses. Chers amis, tôt ou tard, nous allons tous faire face à la mort. Nous savons qu'il est réservé au monde, aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourtant, on pourra croire que personne ne s'y attend, que personne ne pense que cela peut lui arriver un jour, et pourtant, lorsque la mort vient, cela cause toujours un choc. Et pour vous montrer comment les gens ne sont pas tellement sensibles à ce qui peut arriver quand ils vont mourir, ou à ce qui peut arriver, ce qui se passe de l'autre côté après la mort, quand on va évangéliser l'été dans les rues, et qu'on demande aux gens s'ils croient que quelqu'un peut revenir de la mort à la vie, la première chose qu'ils vous disent, c'est « Oui, mais il n'y a jamais personne qui est revenu. On n'a pas de preuves. » Et regardez comment c'est un combat spirituel. Bien, vous leur dites « Oui, j'en connais un, Jésus. Ah oui, mais lui, c'est pas pareil. » Spécial, hein? Des non-chrétiens qui vous disent ça. Hein? Lui, c'est pas pareil. C'est parce qu'ils veulent pas croire. Hein? C'est parce qu'ils veulent continuer leur petite vie, quoi. Les gens ne veulent pas se poser la question de savoir, ne veulent même pas savoir, en tout cas, regarder une possibilité, d'entendre une possibilité, finalement, de savoir où ils vont passer l'éternité. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Aujourd'hui, on voit vraiment l'indifférence de la mort quand on assiste à des enterrements de grandes vedettes où les gens sont habillés en blanc et quand le cercueil sort, tout le monde applaudit. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un d'assez sage pour leur demander après, « Mais pourquoi vous applaudissez? Pourquoi vous applaudissez? » Combien de gens vous disent, quand vous allez dans un salon funéraire, combien vous entendez souvent des gens vous dire, « Bien, enfin, il a fini ou elle a fini de souffrir. » Et moi, la question que je leur pose, sans porter de jugement, je leur dis, « Ah, c'est parce que vous savez à quel endroit ils sont maintenant. » Mais les gens n'ont pas de réponse. C'est aberrant, quoi. C'est aberrant comment on est dans une insouciance spirituelle dans le monde, il y a un aveuglement dans le monde, les gens sont endormis par rapport à la mort. Ils préfèrent s'organiser pour faire leur préarrangement funèbre, mais pas leur préarrangement spirituel. Ce qui leur compte le plus, c'est dans le monde dans lequel on vit, c'est le corps, et non pas les choses de l'esprit. Et frères et sœurs, à tous les jours, l'enfer s'agrandit de voir le nombre de personnes qui tombent dans ce grand abîme sans fin. La mort peut venir vous chercher alors que vous n'êtes pas prêt. L'important, c'est de ne pas être pris au dépourvu. Vous pouvez vous préparer aujourd'hui même à faire face à la mort avant qu'elle vienne vous chercher. Vous pouvez être prêt en croyant au Seigneur Jésus-Christ et être sauvé. Jésus est la résurrection et la vie, parce qu'il a dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui croit en lui vivra même s'il meurt, et celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais, dit Jésus. Le problème pour le monde, c'est qu'ils pensent qu'on a juste une carcasse parce qu'on les considère, on les compare à des animaux. J'ai entendu un jeune de 10 ans à la télévision qui dit « on est des mammifères ». Ça, c'est ce qu'on leur enseigne à l'école. L'être humain, ce n'est pas des êtres humains, ce sont des mammifères. Vous n'êtes plus un être humain, vous êtes un objet, vous êtes une chose. Et c'est beaucoup plus facile de faire mourir des choses et des objets qu'un être humain. Ça soulage beaucoup plus notre conscience de tuer des objets et des choses que des êtres humains. Et on est dans cette génération-là. Voilà pourquoi l'euthanasie maintenant s'étend à grande échelle. Et il y a un projet de loi maintenant dans un pays en Europe où ce sont les enfants maintenant qui vont pouvoir signer à la place des parents pour accepter l'euthanasie. Alors, quand on ouvre la porte à quelque chose, c'est une boîte de Pandore. C'est toujours pour une bonne, soi-disant, une bonne cause, mais on ne connaît jamais, jamais où la porte va se fermer. Et ça fait peur. Moi, je vais avoir 70 ans. Je ne sais pas pour ceux qui sont un peu plus vieux. Heureusement qu'on a des enfants chrétiens. Mais c'est pour ceux qui sont dans le monde. Parce que le défi, finalement, c'est quoi le challenge? C'est l'argent. Pourquoi entendre encore que 20 ans que papa continue à vivre alors qu'on pourrait avoir 250 000 euros demain matin de son héritage? Le challenge, il est là. Hein? Il est là. Et heureusement qu'en tant qu'enfant, enfant de Dieu, on a une autre vision, une autre vision finalement de la mort, une autre vision aussi de la vieillesse et ainsi de suite. Frères et sœurs, mes amis, vous pouvez être prêts quand la mort vient pour vous. Voici la partie la plus tragique de ce passage. Balthazar est mort de façon horrible pour se retrouver dans le séjour des morts. Il y est toujours accompagné du riche et beaucoup d'autres attendent le jugement final. Chers amis, est-ce que Balthazar entend toujours la voix du vieux Daniel lui dire « Tu es pesé, pesé. Tu as été pesé sur une balance et tu ne fais pas le poids. » Requête-t-il aujourd'hui d'avoir voulu passer un collier d'or autour du cou de Daniel au lieu de se prosterner devant le Seigneur? Pleure-t-il aujourd'hui, ce cher Balthazar, parce qu'il s'est contenté de vouloir accorder une promotion à Daniel plutôt que de rendre gloire à Dieu? Les choses auraient pu se passer autrement pour Balthazar. Il connaissait la vérité sur Dieu, mais il n'a pas agi en conséquence. Il a plutôt serré son poing devant Dieu et il lui a tourné le dos. C'est dans cet état qu'il est mort, perdu pour l'éternité. Personne ne doit choisir de connaître la même fin que Balthazar. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle ce matin qui doit choisir de mourir sans Jésus. Vous n'êtes pas obligé de mourir dans votre péché. Vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer. Jésus est mort sur la croix pour vous ouvrir le chemin qui mène au ciel. Venez à lui et soyez sauvés ce matin. Venez à lui aujourd'hui même si ce n'est pas le cas ce matin. L'histoire de Balthazar, c'est l'histoire d'une tragédie empilée sur une autre. Mais son histoire ne doit pas nécessairement être la vôtre, car voyez-vous, la fin de votre histoire n'a pas encore été écrite. Vous êtes toujours vivant aujourd'hui, et si vous n'avez jamais reconnu votre péché devant le Seigneur, si vous ne l'avez jamais reçu dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire maintenant. Vous devez venir avec lui pour avoir la certitude d'être sauvé. Rappelez-vous, il ne rejette jamais celui qui vient à lui ou celle qui vient à lui. Il vous aime, il vous attendra au ciel. Lorsque vous mourrez, que vous soyez sauvé ou perdu, ce matin, votre histoire ne doit pas être nécessairement celle d'une vie gâchée, ni celle de subir la colère de Dieu et mourir comme un misérable pécheur. Je l'ai dit avant de commencer, ce chapitre, c'est un chapitre terrible, terrible à lire, terrible à prêcher aussi, parce qu'on essaie de sortir quelque chose de bon, mais finalement, tout ce qu'on peut sortir de bon, c'est de regarder la vie de Daniel, mais c'est aussi cet espoir en Jésus-Christ de dire, écoute, moi, je ne veux pas vivre une vie où je ne sais pas où je m'en vais. Moi, je ne veux pas vivre une vie, je sais que Dieu est patient. Parce que quand on dit que Dieu est lent à la colère, ça veut dire que Dieu est patient. Lent à la colère et patient, c'est la même chose. Dieu est patient, mais maintenant, j'entends la vérité ce matin. J'entends l'Évangile ce matin. J'entends la solution pour moi de voir tous mes péchés être effacés, pour être pardonné, pour passer de la mort à la vie, pour devenir non plus un enfant de colère, mais un enfant de lumière. La décision, elle est de ton côté, mon frère. La décision, elle est de ton côté, ma sœur. La décision, elle est de ton côté. Je dirais, mes amis. Oui. Parce qu'on est tous des amis ce matin. Oui. Que vous soyez sauvés ou perdus, votre histoire ne doit pas nécessairement être celle d'une vie gâchée, ni celle de subir, je le répète, la colère de Dieu et mourir comme un misérable pécheur. Votre histoire peut avoir une fin heureuse. Si le Seigneur parle à votre cœur ce matin, je vous invite à venir à lui, car l'auteur des Proverbes dit ceci, « Celui qui le trouve, trouve la vie. Celui qui trouve le Seigneur, trouve la vie. » Je vais terminer ce message simplement en vous demandant de courber la tête, de fermer les yeux. Je ne ferai pas d'appel à lever la main, mais simplement laisser le Saint-Esprit agir dans votre cœur ce matin. Je vais simplement vous inviter à faire une prière qui ressemble à celle que j'ai faite lorsqu'il y a eu un appel dans une église où je me trouvais. Et cette journée-là, eh bien, j'ai pris une décision pour le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'amour que tu as manifesté en moi à la croix de Golgotha. Merci aussi d'être venu dans ce monde pour mourir à ma place. Seigneur, et prendre sur toi tous ces péchés que j'ai commis dans ma vie. Seigneur, ce matin, je réalise que sans toi, je suis perdu. Je réalise, Seigneur, que sur la croix, tu as subi, Seigneur, le châtiment, la colère, le jugement que je méritais pour ma vie, Seigneur, passée sans Dieu. Je veux maintenant mettre ma confiance en toi, t'ouvrir mon cœur et te recevoir dans ma vie. Merci, Seigneur, de me pardonner mes péchés. Merci, Seigneur, transforme-moi et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Seigneur, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Fais de moi, Seigneur, une personne dont tu te réjouiras, Seigneur, de pouvoir m'utiliser pour l'avancement de ton royaume. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi, sur de nouvelles bases, Seigneur, à partir de ta parole ce matin. Je te remercie d'avance d'avoir répondu à ma prière. Et Seigneur, que ma vie maintenant soit consacrée à te glorifier. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Chers amis, il est facile de faire une prière de ce genre en terminant. Mais moi, je me souviens que quand on m'a demandé de faire une prière, j'ai fait la prière. Et à ce moment-là, j'étais en affaires. Et c'est facile d'accepter Jésus comme sauveur. C'est très facile. Le plus difficile, je pense, pour toute notre vie chrétienne, c'est de l'accepter comme Seigneur jour après jour. Dire aujourd'hui, je prends la décision que tu sois le Seigneur de ma vie, que mes décisions durant la journée que je vais prendre soient prises sur la base de ta parole et non pas sur la base de moi ce que je pense ou et ainsi de suite. Et quand j'ai levé la main, c'était facile. Le message était clair. Et quand le prédicateur a demandé pour venir en avant, c'est là que ça commence à me chatouiller. Et là, je ne voulais pas avancer. Parce que il y a une petite voix qui me disait, pense à tout ce que tu vas perdre aujourd'hui si tu t'avances. Pense à tout ce que tu... Et moi, je faisais du noir. Ça arrive, hein, qu'il y ait des hommes d'affaires qui font du noir. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive. Hein. Et là, je savais, tout ce que je pensais, c'était au pognon que je perdrais. Parce que j'étais doublement voleur. Hein. Non seulement je mettais dans ma poche, mais à la fin de l'année, quand je faisais mes rapports d'impôts, eh bien, quand j'avais une facture qui était au noir, je marquais promotion. Promotion. Donc, je devais retirer aussi, hein, pour ceux qui sont comptables, je retirais aussi du gouvernement parce que ça devenait une dépense pour moi. Alors, j'avais mis, sur un exemple, 400 euros dans ma poche. Alors, je marquais promotion, eh bien, je facturais ça au gouvernement sur mon rapport d'impôt. Et là, j'avais ça. Et à un moment donné, ben, j'étais en concubinage avec une femme. Pour ceux qui l'ont connue, c'était ma femme. Et à un moment donné, on avait levé la main tous les deux. Et elle était prête à aller en avant et elle me disait, t'es prête ou t'es pas prête? Il y avait ce combat spirituel. Et ce matin, ça peut être la même chose. Ça peut être la même chose pour certains d'entre vous qui n'ont jamais fait cette prière, qui n'ont jamais pris cette décision pour le Seigneur. Elle est facile à lire, cette prière-là. Elle est facile à dire, cette prière-là. Mais il y a un prix à payer. Si le salut est gratuit, il y a un prix à payer quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ et de renoncer à vivre une vie de péché comme on faisait avant. Et là, j'ai entendu une autre voix qui m'a dit, si tu ne t'avances pas ce soir, tu perds ta femme. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'on vivait en concubinage. Donc, si la lumière est du côté de ma femme et moi, je continue à vivre dans les ténèbres, tôt ou tard, ça ne peut pas marcher dans la maison, ça ne peut pas marcher nulle part. Et là, j'ai pris la décision de dire, ah, c'est fini noir, fini la noire. Là, je donne ma vie au Seigneur, c'est terminé. Je ne veux plus vivre à ma façon, c'est terminé. De toute façon, j'étais rendu au bout. À 33 ans, j'étais rendu au bout. au bout de tout. Et j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un prix à payer pour ça. C'est facile, comme je l'ai dit, c'est facile de faire une prière. C'est facile de vivre dans le péché, puis le soir de confesser son péché. Faisons attention de ne pas se retrouver comme Balthazar, chers amis. Il y a des limites à se moquer de Dieu. Faisons attention, si vous êtes chrétien depuis longtemps, que vous êtes indifférent au péché, faites attention. Faites attention, parce que le Saint-Esprit aussi peut, comme Balthazar, au lieu de vous sensibiliser à vous détourner, à venir au Seigneur, il peut endurcir votre cœur. C'était le cas de Balthazar. C'était le cas de Balthazar. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récolte ce qu'il a semé. Je ne sais pas de vous faire peur ce matin, mais les gens dans le monde n'ont pas besoin d'entendre l'Évangile. Ils ont besoin de voir à travers ceux qui se disent chrétiens, l'Évangile est vécu à travers eux. C'est ce que notre monde a besoin ce matin. Ce n'est pas d'apprendre des versets par cœur puis les bombarder alors qu'on ne les vit pas. C'est d'être capable de nous-mêmes de transpirer l'Évangile de Jésus-Christ parce qu'on vit comme Dieu nous demande de vivre. Je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vivre une vie sans péché. Mais au moins, c'est la parole, Paul est clair, efforcez-vous de. Efforcez-vous. Il utilise souvent le verbe efforcez-vous. Faites tous vos efforts pour. Et frères et sœurs, c'est ce que le Seigneur a besoin de voir parmi son peuple aujourd'hui. Peu importe où l'Église est implantée, ceux qui se disent de Jésus-Christ ont besoin d'être des évangiles vivants pour que les gens soient attirés vers eux, comme Christ l'a dit. Le temps qu'il était sage sur la terre, il attirait les gens à lui. Maintenant qu'on est au ciel, nous sommes la lumière du monde. Et en principe, les gens devraient être attirés vers nous. Et si on vivait la vie que Dieu nous demande de vivre en Jésus-Christ, on aurait beaucoup moins d'efforts à proclamer l'Évangile. Beaucoup moins d'efforts. On laisserait tomber toutes nos méthodes et on laisserait le Saint-Esprit agir. Et on verrait la puissance de Dieu se manifester, la gloire de Dieu se manifester au milieu de son peuple. C'est ce que le Seigneur a besoin. C'est ce que le Seigneur veut voir dans la vie de ses enfants aujourd'hui. Et à cette époque où les gens mais sont vraiment perdus, ils sont dans n'importe quoi. Frères et sœurs, on a un grand Dieu qui est patient, un grand Dieu qui est bon, un Dieu dont la majesté surpasse les cieux, dit l'auteur des psaumes. On a un Dieu qui est, la puissance est illimitée. Vous pensez que Balthazar n'a pas eu toutes ses chances? Vous avez juste à penser à Nabucodonosor. Si Dieu n'a pas épargné Balthazar, il n'aurait pas dû épargner Nabucodonosor parce que les deux, là, c'était deux pareils. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a reconnu son péché, il y en a un qui s'est repenti, il y en a un qui a rendu gloire à Dieu. Et Dieu l'a béni. C'est ce que la Bible, le texte nous dit dans le chapitre 4 qu'on a lu la semaine passée. Dieu l'a béni. Dans le chapitre 5, on a un autre roi qui prend la place de Nabucodonosor. Mais lui, il ne veut pas s'humilier. Lui, il veut montrer qu'il règne sur le monde. Lui, il brandit le poing devant la face de Dieu. Lui, il détourne son regard de Dieu. Lui, c'est ses dieux d'or, d'argent, de fer, d'acier et de bois qu'il va adorer, mais pas le vrai Dieu. Et frères et sœurs, c'est aussi une question qu'on peut se poser ce matin. Est-ce qu'on adore dans notre vie sans savoir d'autres petits dieux comme Balthazar? Est-ce que c'est possible ce matin? Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas être partagé avec personne. Est-ce qu'il y aurait d'autres dieux dans notre vie ce matin qui empêcheraient Dieu manifester sa puissance dans nos vies, nous remplir de son esprit, au point où ça déborderait, que ce qui déborde, on le transmet aux autres. Frères et sœurs, la joie de votre salut, est-ce que vous l'avez encore ce matin? L'espérance vivante de la résurrection, est-ce que ça bouge en votre cœur ce matin? Vous avez besoin de faire vos préarrangements? Vous savez où vous allez aller. Le corps, c'est simplement l'enveloppe qui nous empêche de voir notre âme. Mais la Bible est claire aussi. Quand on meurt, l'esprit retourne à son Créateur. Nous, on sait que quand la fête est terminée, on sait, nous, eux savent pas où ils s'en vont. Mais nous, on sait où on s'en va. Et on n'a pas besoin de festoyer comme les gens du monde pour être heureux. Parce qu'on a l'Esprit de Christ qui habite en nous. Et on a un Dieu extraordinaire, un Dieu merveilleux. Et frères et sœurs, si on attend d'être au ciel pour évangéliser, bien, il n'y aura pas de pécheurs au ciel. C'est maintenant le temps qu'on est sur la terre qu'on peut proclamer l'Évangile. Simplement partager l'amour de Jésus, mais aussi partager les conséquences de quelqu'un qui rejette cet Évangile, parce qu'il refuse de reconnaître qu'il est pécheur devant Dieu. Et frères et sœurs, en évangélisant année après année, je m'aperçois que c'est vrai que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et que même quand on parle aux gens, s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit pour venir convaincre les gens de péché, de justice et de jugement, il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de conversion. C'est des conversions de surface qui ne font qu'amener les gens à devenir religieux. Mais on ne voit pas de nouvelles naissances. Et ce que Dieu veut, c'est des nouvelles naissances pour faire de nous des nouvelles créatures. Amen.